Bonjour Jessie Cormont, merci de répondre aux questions de Micro Rebelle. Donc pour te présenter en quelques mots, tu es sociologue dans la région du Nord-Pas-de-Calais. Tes sujets de prédilection, si je puis dire, sont les inégalités et les égalités sociales, les discriminations dans leurs ensembles, sur les rapports sociaux, racisme, sexisme, classisme, homophobie. Tu t'intéresses aussi à tout ce qui est le rapport aux médias, l'éducation populaire, les violences, l'économie, etc. etc. Je ne pourrais pas tout dire là, mais on peut retrouver un peu sur Internet les sujets de tes recherches. Tu as publié plusieurs ouvrages et il y a eu plusieurs entretiens qui ont été retranscrits dans des magazines. Pour n'en citer qu'un, en 2018, on peut dire « discrimination systémique », un terme faussement complexe pour un enjeu populaire du premier plan, aux éditions Actes. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour ta présentation ?
Alors peut-être un point, c'est le lien par rapport au sujet qui nous concerne, là, le lien avec l'université, plus généralement sur ce qui se passe dans la société française. Donc moi je suis pas sociologue à l'université, je fais partie de la sociologie qui agit pour les politiques publiques, le secteur associatif et l'éducation spécialisée hors de l'université. Et j'interviens depuis quelques années à l'université comme chargé d'enseignement vacataire sur certaines thématiques à l'université. Donc je suis un observateur comme citoyen, comme tout le monde, des dynamiques des politiques publiques et du fonctionnement de la société française. Et comme sociologue, du coup, je suis un acteur des politiques publiques impliquées et un observateur aussi des liens entre les polémiques médiatiques ou les querelles médiatiques et politiques dans la société en général, la façon dont c'est travaillé par les universités et les chercheurs dans l'université, hors de l'université, et les conséquences qu'il y a concrètement, pratiquement, sur les citoyens et citoyennes dans la société française, et notamment les impacts en matière de santé, d'accès aux droits, à l'égalité et à la justice.
Ok, super. Il me semble avoir lu aussi que, donc évidemment, toi, tu es un acteur de terrain, tu travailles beaucoup avec les habitants et habitantes du territoire. Il me semble que tu as fait un travail, notamment avec Saïd Bouamama, qu'on a interrogé plusieurs fois à Micro Rebelle, sur des habitants et habitantes de Libercourt, leur rapport aux histoires de migration et de travail dans les mines.
Exactement, oui.
Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat aujourd'hui, qui est le terme d'islamo-gauchisme. On l'entend depuis quelques années, dans les médias notamment. Alors certaines l'attribueraient en premier au sociologue pro-israélien Pierre-André Taguieff. Et depuis, des personnes du monde universitaire et de la politique l'utilisent. C'est le cas récemment de la ministre actuelle de l'enseignement supérieur et de l'innovation, Frédéric Vidal, qui qualifiait sur CNews le 14 février dernier des courants de recherche dans l'université d'islamo-gauchisme. Alors est-ce que tout d'abord, d'après toi, est-ce que tu peux revenir sur ce que signifie ce terme ? Qu'est-ce qui est désigné par là ou qui est désigné ?
Alors la première chose, c'est que ce terme-là, c'est important de le rappeler, comme l'a fait le CNRS, le Conseil national de la recherche, là en France, du coup, qui a rappelé que ce terme-là n'était pas un concept scientifique. C'est un concept, c'est un mot fourre-tout, c'est une expression politique et idéologique, alors dont on attribue l'ancienneté à Pierre Taguieff à la fin des années 90, début des années 2000. Donc lui qui était un chercheur, du coup, sur le Front National et sur l'extrême droite, qui est un chercheur historiquement à gauche, plutôt proche du Parti Socialiste, et qui a forgé un certain nombre de travaux qui sont très très importants et précieux, et d'autres travaux qui sont très polémiques et discutables, y compris l'invention de ce terme-là, qui n'a pas eu aucune prise dans le champ universitaire, il n'est pas reconnu depuis 20 ans. Donc ça c'est une première chose, oui, lui était chercheur, mais son concept n'a pas pris. Ensuite le concept, c'est important de rappeler qui l'utilise et qui le mobilise, parce que du coup on a une absence de ce mot dans la réalité médiatique, politique et scientifique pendant à peu près une quinzaine d'années, après qu'il était élaboré par Pierre-André Taguieff. C'est le CNRS là, qui a fait une étude, le directeur de recherche au CNRS, David Chavalarias, qui a montré, ils ont fait une étude sur près de 290 millions de messages sur Internet, là, avec Politoscope. Et du coup, ils ont montré qui mobilise et utilise ce terme. Et du coup, la conclusion de leur étude, c'est très important de le savoir parce que ça n'est pas neutre. Elle n'est pas mobilisée par l'université et la recherche. Elle est mobilisée par des militants d'extrême droite, des militants de la droite proche des Républicains. Elle a d'abord été utilisée à l'intérieur des luttes des Républicains entre Sarkozy et Fillon dans le cadre de la primaire de la primaire là en 2000 du coup je crois que c'est 15 16 ou 17 je sais plus 17 peut-être et du coup en fait ce mot-là a été utilisé par Sarkozy pour disqualifier non pas Fillon Alain Juppé pardon pour le disqualifier politiquement. Donc c'est une arme idéologique de disqualification dans le cadre des luttes habituelles des partis politiques. Et ensuite ce terme-là l'étude de Politoscope montre que c'est la majorité des comptes sur les réseaux sociaux qui ont mobilisé ce terme-là, c'est l'extrême droite. Donc ça n'est pas neutre du tout, c'est un mot utilisé par l'extrême droite et par une partie du champ politique et médiatique proche des Républicains. Donc ça, c'est une première chose. Je sais pas si ça va, si je réponds à ta question
par rapport à ça.
En tout cas, c'est un terme qui n'est pas reconnu. Le CNRS a pris position là-dessus. C'est pas un mot qui est reconnu scientifiquement, qui n'a pas de réalité scientifique. Alors, elle a une réalité politique dans le sens où des acteurs politiques l'utilisent, mais c'est pas un concept reconnu par l'université. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. La deuxième chose, c'est maintenant, que vise à qualifier ce terme d'islamo-gauchisme donc, c'est un par ceux qui l'emploient. Parce que du coup, ça, c'est important aussi, le terme « isme », quand on rajoute « isme », un terme, souvent, ça vise à identifier une doctrine politique, idéologique, un courant de pensée qui se revendique de ce propre mot. Le terme d'islamo-gauchisme, il n'y a personne, aucun corpus théorique qui existe et qui se réclame de ce terme-là. Il y a maintenant des gens qui s'en réclament dans le sens de retournement du stigmate, vu que c'est un mot qui vise à stigmatiser, inférioriser et disqualifier des adversaires politiques. Des personnes reprennent ce mot pour dire « bon bah ». Si vous dites que quand on dénonce le racisme anti-musulman, l'islamophobie et qu'on est dans le camp des égalités, qu'on est de gauche, des gens disent bah du coup on est islamo-gauchiste. Mais il n'y a personne qui se revendique à proprement parler dans la définition de ceux qui accusent. Ceux qui accusent, dans le terme islamo-gauchisme, il y a deux choses. Donc gauchistes sont accusés toutes les personnes de gauche. Et ça c'est important, c'est qu'il n'y a pas seulement l'accusation d'islamo-gauchisme spécifiquement lié à l'islam, il y a tous les mouvements de recherche ou des mouvements militants qui s'intéressent aux questions de genre, les mouvements qui s'intéressent à la question de l'homophobie, de la transphobie, sur les questions de classe sociale aussi, des inégalités entre classes sociales, les gauchistes dénoncés par le terme islamophobie sont accusés également. Donc toute personne de gauche, là, aujourd'hui, est en fait accusée par cette thématique-là. Sur la question de l'islam, c'est important d'identifier qu'on interroge l'islam en général, là, pas une fraction terroriste ou réactionnaire ou d'extrême droite de l'islam, c'est l'ensemble de l'islam qui est pointé du doigt, ce qui pose un grand problème, que ce soit en République, en démocratie, tous les musulmans sont désignés par cette expression. Et là, il faut le resituer dans le contexte de la désignation des musulmans comme bouc émissaire et comme ennemi de l'intérieur depuis une vingtaine, trentaine d'années. La démarche de construction des musulmans comme ennemi de l'intérieur, elle a d'abord commencé par les terroristes, d'abord, dans les années 90-2000, qui, eux, se revendiquaient de l'islam. Donc ces terroristes-là ont été disqualifiés, et bon, ça a raison, hein. Ces fractions-là étaient des courants réactionnaires. Puis ensuite, on est passé à l'islamisme politique, qui est déjà une catégorie beaucoup plus compliquée, qui est beaucoup plus floue, puisqu'on peut y mettre à la fois des militants politiques qui se revendiquent de l'islam, qui sont d'extrême droite, qui sont de droite, de centre droit, de centre gauche, voire d'extrême gauche. Et du coup, là, on a un problème à qualifier l'ensemble des personnes de confession musulmane souhaitant s'impliquer dans la vie politique, défendre leur projet de société politique, etc. On ne va pas forcément disqualifier l'ensemble des chrétiens croyants qui se revendiquent de la religion chrétienne et qui peuvent être d'extrême droite, de centre-gauche et d'extrême-gauche, puisqu'il y a aussi des chrétiens de gauche et d'extrême-gauche. Pareil sur les juifs, on ne va pas disqualifier les juifs dans leur globalité, qui à partir de leur religion vont vouloir s'impliquer dans la société française. Je rappelle qu'en France, on a le droit avec la laïcité d'être croyant, d'être pratiquant et d'être citoyen reconnu dans l'entièreté de ses droits politiques. Ce qui pose la question, ce qui est problématique, c'est la disqualification d'acteurs qui s'impliquent au nom de leur croyance ou en plus de leur croyance. De mon point de vue, ce qui est problématique, c'est lorsque des acteurs engagés politiquement, qu'ils soient non-croyants ou croyants, c'est la question de la réalisation de crimes, de délits, que ce soit de l'injure, du harcèlement politique, moral ou de l'attentat terroriste. Ça, c'est ce qui pose problème. C'est les actes d'une personne ou ses propos s'ils sortent du cadre de la liberté d'expression en France. Donc je ne sais pas si je suis clair sur ce point. On a un problème à disqualifier l'ensemble d'un groupe social au nom du seul fait de son adhésion, par exemple, à la religion musulmane. Ça, c'est interdit en France, en fait. Tout simplement, c'est illégal. Et donc, du coup, la désignation du terme islamo-gauchiste, c'est une qualification idéologique et politique, c'est une arme de disqualification. Maintenant, il y a deux choses qui est interpellant par rapport à ça. Du côté de ceux qui l'emploient, c'est la construction d'une menace et d'une accusation, qui est une accusation imaginaire, puisqu'elle viserait à penser qu'il y a à gauche et parmi l'ensemble de la population musulmane une adhésion au projet d'attentat terroriste, par exemple, et d'une collusion entre terroristes musulmans d'extrême droite et l'ensemble de militants antiracistes, antifascistes, qui luttent contre l'islamophobie, qui luttent pour les égalités, qui seraient de connivence avec les projets d'attentats terroristes. Ça, c'est un autre élément factuel qu'il faut rappeler. Il n'y a aucune organisation politique de gauche qui est accusée d'islamo-gauchiste. Je rappelle qu'elle est assez large, puisque Europe Écologie Les Verts est visée, le Parti communiste français est visé dans ses accusations, la France insoumise est visée dans ses accusations, une partie du mouvement communiste libertaire, anarchiste, anarcho-syndicaliste, en dehors des partis politiques que j'ai mentionnés, des courants, sont visés aussi. Toute une partie des mouvances antiracistes, du coup, afro-descendants, issus de l'immigration coloniale, sont visés aussi. Une partie des mouvements LGBT, qui sont aussi à lutter contre l'islamophobie, la négrophobie, etc., sont visés. En tout cas, du coup, aucun de ces mouvements ne s'est solidarisé avec les terroristes. Il y a eu des déclarations dans tous les groupes et tous les syndicats. CGT s'est visé aussi. Sud est visé, le syndicat Sud est visé aussi, la CNT est visée aussi. En fait, il y a absolument toutes les forces syndicales, politiques ou les collectifs de gauche et d'extrême gauche qui sont visés par cette accusation-là. Aucune de ces organisations n'a réalisé d'écrits, de documents, de communiqués soutenant le terrorisme extrémiste d'extrême droite musulmane. Les Daesh, Al-Qaïda, etc. Il n'y en a aucun qui s'en est revendiqué. Donc l'accusation, là, elle est mensongère, puisqu'elle vise à faire croire qu'il y a une collusion politique, une adhésion entre des groupes de gauche avec cette extrême droite, et même une adhésion, du coup, de l'ensemble des musulmans qui adhéreraient, du coup, à l'extrême droite terroriste musulmane. Je rappelle que l'extrême droite musulmane est minoritaire parmi les musulmans. Il y a des musulmans réactionnaires de droite, de centre, etc., qu'on peut critiquer pour ces raisons-là, mais par exemple, qui ne sont pas en alliance avec Daesh, Al-Qaïda. L'essentiel des musulmans en France et dans le monde ne rejoignent pas les projets terroristes d'Al-Qaïda, Daesh ou du wahhabisme en Arabie Saoudite, par exemple.
Écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une sorte d'argument qui est utilisé par le pouvoir en place, qu'il soit politique, économique ou autre, pour discréditer en fait tous les courants politiques de pensée, d'action qui en fait critiquent d'une certaine manière les politiques qui sont mises en œuvre et qui touchent donc à des sujets très, très larges, comme tu viens de l'évoquer. C'est un peu une manière de discréditer et de faire taire comme tu le disais, avec un terme qui n'a aucune reconnaissance scientifique.
Oui, tout à fait. Alors du coup, il y a une chose qui n'est pas problématique dans ce que tu viens de dire, c'est la démocratie et la politique, après tout, et même le champ universitaire. Il y a des conflits d'intérêts, des conflits scientifiques, des conflits politiques, des conflits idéologiques. Ça, c'est normal en démocratie. Une démocratie fonctionne, y compris avec ce qu'on appelle l'injure rhétorique, parce que l'islamo-gauchisme, c'est ce qu'on appelle une injure rhétorique. C'est des stratégies de disqualification de l'adversaire, de caricaturer l'autre, etc. Ça, il n'y a pas de problème, en fait, finalement. C'est la politique qui vise à faire ça. La disqualification, après tout, ça peut faire partie des armes en démocratie. Donc ça, c'est pas forcément un problème. Ce qui devient problématique, c'est lorsque, du coup, de la simple disqualification et de la joute verbale et politique classique en démocratie, on arrive à un autre processus qui, celui-là, est illégal et anormal. La discrimination politique est interdite en France. C'est interdit. Le harcèlement moral et politique, c'est interdit. Donc ça, ce sont deux choses qui sont d'une autre nature. Viser à éliminer un adversaire politique, le disqualifier professionnellement, le blacklister, l'empêcher d'avoir des financements, essayer de neutraliser, d'empêcher des productions intellectuelles, de censure, des logiques de censure, ça, c'est des choses qui sont inadmissibles effectivement en démocratie. Donc là, il y a deux distinctions, si je peux être clair par rapport à ça. Il y en a une qui est la lutte idéologique habituelle, celle-là, elle n'est pas problématique. La lutte scientifique, le débat argumenté, l'analyse, y compris des analyses parfois, on sait que dans le champ universitaire aussi, les luttes universitaires se font pas de cadeaux. C'est assez compliqué. Ce qui est la logique universitaire à la différence de la logique politique, en politique, le mensonge peut être utilisé dans le cadre de la lutte. En science, le mensonge est inacceptable. Le mensonge n'est pas possible. La disqualification d'un adversaire peut se faire, mais elle ne peut pas être basée sur la question. La science essaie d'établir des faits, essaie de regrouper des faits. Et du coup, on ne peut pas se baser ni sur des fantasmes, c'est ce que le CNRS a indiqué avec son étude sur l'islamo-gauchisme. Quand le CNRS indique que l'islamo-gauchisme n'est pas une réalité scientifique, encore moins dans le monde académique, c'est qu'effectivement c'est un fantasme. En science, on peut étudier des fantasmes, mais on ne base pas une vérité scientifique, entre guillemets, sur la base d'un fantasme, sur des théories complotistes, puisque là, on est aussi dans ce cadre-là, le gouvernement manie une rhétorique du complot. Et là, lorsqu'un État, un État démocratique libéral, néolibéral, alors le caractère démocratique peut se discuter, en tout cas c'est une république démocratique, du coup la France constitutionnellement elle est affichée comme telle, lorsqu'un État commence à s'emparer d'une partie de la rhétorique issue de l'extrême droite, de la droite, pour confondre injure rhétorique, logique de stigmatisation avec une logique de vérité scientifique, et une arme de disqualification de la recherche pour contrôler politiquement la recherche, là on est sur un niveau totalement différent qui est effectivement inacceptable. Le troisième niveau qui est problématique actuellement, c'est la commande d'une ministre, parce que à la limite qu'elle emploie des mots qui sont polémiques, pas scientifiques, bon, elle fait de la politique. Ce qui est problématique dans ce qui vient d'arriver là récemment, c'est la demande d'une ministre de réaliser une enquête de police de la pensée, qui est qualifiée de néo-macartisme par un certain nombre de chercheurs, etc., qui vise à vouloir contrôler les productions idéologiques, et y compris pour avoir une incidence en matière de financement, voire peut-être de répression professionnelle. Ça, c'est quelque chose qui est grave et qui est nouveau. Je dis qu'il est grave et qui est nouveau, c'est ce que dénonce la commission des présidents d'Université de France, le CNRS, un certain nombre de chercheurs. Il y a ce que les universités appellent les libertés académiques. Elles sont fondamentales, rappelées par l'Organisation des Nations Unies depuis 1948. Il y a une indépendance des universités en démocratie avec le pouvoir politique. Et là, on a une rupture qui est dénoncée par plusieurs organes représentatifs de l'université française. Là, il y a une vraie rupture actuellement. C'est plus juste un débat démocratique, un débat politique, un débat académique. Il y a une rupture de confiance du monde universitaire qui ne reconnaît plus l'autorité de la ministre avec ce genre de démarche-là. Il y a d'ailleurs des appels à la démission qui, dans une pétition des chercheurs, des enseignants, des universités, qui regroupe plus de 20 000 personnes là au jour d'aujourd'hui. En une semaine, 20 000 personnes, individus engagent leur nom pour demander la démission. Sachant que la ministre, elle était déjà désavouée dès le mois de novembre pour toute une autre série de raisons. On est aussi dans une actualité politique où l'université explose. Elle explose de précarité, elle explose aussi des conséquences du confinement sur la l'apparition du coup d'une surmortalité, d'un taux de suicide qui explose, de burn-out étudiant, d'une difficulté des professionnels de l'université effectivement de faire face à leur mission de service public. Et là, on a en fait un agenda politique autour du terme islamophobie qui est instrumentalisé pour masquer une rupture plus profonde du monde de l'université avec sa propre ministre. Et donc ça aussi, il faut le resituer dans ce cadre-là. Il y a une lutte idéologique d'un côté et il y a une rupture de confiance entre le monde universitaire et une série de syndicats ne reconnaissent plus la ministre comme étant légitime. Et donc le dernier élément, c'est quelque chose qui est plus inquiétant, c'est la question de la place du droit des sciences à être critique des pouvoirs publics en démocratie, là, en France, actuellement. Et là, on a alors quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est les sciences sociales et notamment la sociologie là, qui est visée, mais pas seulement, mais notamment ces sciences-là. Bon, c'est pas nouveau que la sociologie est visée par les stratégies des droites réactionnaires, depuis par exemple la création des sciences économiques et sociales dans les lycées généraux, dans les alentours des années de mai 68. Le patronat veut disqualifier, empêcher, et la droite veut retirer des programmes d'enseignement scolaire les sciences économiques et sociales. Donc ça, c'est pas nouveau. La critique du patronat des sciences qui analyse le harcèlement moral en entreprise, les dynamiques de classe sociale, bon, ça c'est pas nouveau en fait. Pareil, le fait que des courants réactionnaires du point de vue du patriarcat, les courants masculinistes, souhaitent disqualifier les mouvements féministes, c'est pas nouveau ça non plus. Le fait que une partie des fractions homophobes, transphobes de la société veulent disqualifier les luttes à la fois académiques et scientifiques d'études de l'homophobie et de la transphobie, mais aussi des mouvements militants qui veulent faire avancer l'égalité, ça non plus, ça n'est pas nouveau. La disqualification des citoyens ou des militants qui veulent dénoncer l'islamophobie et les discriminations islamophobes, tout ça, ça n'est pas nouveau, ça fait partie du fonctionnement de la démocratie. Ce qui est nouveau, c'est de vouloir effectivement faire taire à la fois les citoyens qui portent des revendications égalitaires qui sont conformes aux lois françaises et qui veulent dénoncer les illégalismes de la société française et parfois les illégalismes, y compris de l'État français ou d'une partie du personnel médiatique. Ça, on a un vrai problème de ne plus avoir le droit de pouvoir. Je parle de droit là, pas dans le sens individuellement, j'ai pas le droit d'exprimer mon opinion. S'il y a une répression économique, politique, judiciaire d'individus qui émettent une analyse critique de dénonciation de comportements ou de paroles, de pratiques discriminatoires, là on a un vrai problème d'inversion de la délinquance. Ceux qui critiquent la délinquance, puisque le racisme est un délit, je le rappelle, la discrimination est un délit, le harcèlement moral et politique est un délit. Ceux qui dénoncent des délits, là je prends le champ militant, ou ceux qui analysent des délits ou des dynamiques inégalitaires ou discriminatoires, s'ils subissent une répression ou elles subissent une répression dans la société, là on a un vrai problème d'inversion de la dangerosité d'une dynamique au niveau de la société. J'espère être clair sur cet aspect-là. Et l'aspect qui est très inquiétant, c'est le fait que de ce point de vue-là, du point de vue de l'intrusion, de la volonté de contrôle de l'État, des productions académiques et universitaires, d'entraver les libertés académiques, comme elles sont nommées, on a une modification du positionnement de l'État français, là, cette année, dans le contrôle des productions universitaires. Il y avait déjà eu des tentatives auparavant, mais c'était des tentatives d'influence idéologique et politique. Là, de vouloir utiliser les instances universitaires de contrôle des productions universitaires piloté et dirigé par l'État français, là on a une vraie rupture historique, j'attire vraiment votre attention là-dessus. C'est pour ça qu'une partie des instances universitaires s'inquiète de cette dérive de l'État français, de cette tentation de l'État français, qui les ferait, il y a même le président de la Sorbonne qui s'en est inquiété, le président de la Sorbonne avec d'autres, ont indiqué que du coup, pour le moment, les États qui essayent de contrôler les productions académiques avec des logiques de répression, de harcèlement, de discrimination, c'est la Russie qui veut contrôler les productions, c'est la Hongrie qui est alors d'extrême droite néolibérale, etc. On a le Brésil qui le commet également. On a toute une série de pays qui sont effectivement réactionnaires et qui ont des dérives autoritaires, voire fascisantes, parfois avec des alliances fascistes, des groupes d'extrême droite repérés qu'on peut analyser comme fascistes, y compris néo-nazis, etc. Et donc là, le fait que la France, qui n'est pas un pays fasciste, se rallie à des pratiques autoritaires de ce type-là, on est dans une modification du positionnement de l'État français qui est bien loin de l'idéal affiché républicain, des lois françaises républicaines et d'un idéal démocratique qui respecte non seulement la liberté d'expression critique, la liberté d'expression scientifique, la liberté des productions universitaires et académiques, le droit de l'ajoute verbale ou même de l'analyse des faits. Là, on a une vraie modification qui est très très inquiétante et c'est pour ça que le gouvernement est en train de perdre sur cette thématique-là. Il a perdu son alliance et sa légitimité avec le champ universitaire. Maintenant, d'un point de vue plus inquiétant des citoyens en général, je voudrais indiquer qu'il y a vraiment quelque chose qui est très inquiétant. Pour le résumer comme ça, on a une tentation du pouvoir en France, et y compris du pouvoir médiatique, de vouloir supprimer tout ce qui fait thermomètre des discriminations et des inégalités dans la société française. Tous ceux qui sont en situation de pouvoir analyser, mesurer, produire des chiffres fiables, des faits, loin des polémiques stériles et des logiques de stigmatisation, s'intéresser aux faits. Là, si on a une logique de répression, de casser les outils de mesure des inégalités dans la société, des discriminations, on a un vrai problème. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, avec d'autres, c'est l'ensemble en fait des personnes qui travaillent sur la question des inégalités entre classes sociales, des inégalités de genre, les inégalités sexistes, les violences sexuelles. Je parle aussi des violences sexuelles parce que du coup, on a la commission qui rassemble l'ensemble des chargés de mission des égalités, des chargés de mission pour les égalités dans les universités françaises, qui a pris aussi position contre la ministre. Ils travaillent sur la question des violences sexuelles et sexistes, du harcèlement sexuel, mais aussi de l'antisémitisme et du racisme à l'université. Ils se sont positionnés contre la prise de position de la ministre sur l'islamo-gauchisme, et en indiquant que c'est leur mission officielle de l'université, interne à l'université, qui était remise en cause. Et ils indiquaient d'ailleurs également qu'il y avait un problème de financement et de soutien, même aux instances universitaires qui luttaient contre les violences sexistes et sexuelles, les discriminations racistes à l'université. Et de ce point de vue-là, on a une tendance plus lourde, plus profonde, qui interroge une dizaine d'années de changement de cap des politiques publiques dans leur soutien financier, politique, de dispositifs politiques aux recherche sur les discriminations. Je rappelle par exemple là qu'il y a une étude qui a été produite, notamment le chercheur de l'INED, le démographe Patrick Simon, qui a essayé d'étudier par exemple quand les recherches qui utilisent le concept de race sociale pour penser le racisme, donc non pas les races biologiques mais bien les races sociales, c'est-à-dire les groupes sociaux, les discriminations, les violences qui sont produits par un système social qui s'appelle le racisme et qui fait exister socialement les races, politiquement les races, économiquement les races. Ils ont essayé de savoir quelle était la part des recherches en France qui mobilisaient, qui étudiaient la race sociale ou qui mobilisaient les concepts de race pour pouvoir analyser le racisme et pour pouvoir être un outil de mesure du racisme en France. Y a moins de 2% des recherches depuis les années 60 qui mobilisent les concepts de race. Donc là où on parle d'une invasion des théories racialistes à l'université, par exemple. Donc pareil, les racialistes, c'est aussi une façon d'accuser de racisme ceux qui dénoncent le racisme. Le racialisme, c'est une idéologie d'extrême droite. Donc ceux qui dénoncent le racisme ne peuvent pas être qualifiés de racialistes. Mais on a une inversion des causes et des effets. Là, aujourd'hui, on a ceux qui essaient de dénoncer le racisme qui sont accusés de racisme à leur tour. C'est une complète inversion. C'est comme quand les courants masculinistes patriarcaux, machistes, là, dénoncent les féministes comme étant des sexistes. C'est une inversion de l'accusation. Donc du coup, en tout cas, là, on a un vrai problème de ce point de vue-là. Si on laisse passer la question de l'islamo-gauchisme et au-delà de tous les acteurs qui mobilisent les concepts de race sociale, de genre, de sexe social, de classe sociale, même les écologistes sont menacés dans leur dénonciation aujourd'hui du rôle systémique des politiques publiques ou du capitalisme et des entreprises dans la dans la pollution, dans les santé, des problèmes de santé publique. On a un véritable problème là. En fait, c'est l'ensemble des personnes qui analysent, mais aussi qui dénoncent un certain nombre de thématiques qui sont situées à gauche, qui sont visées en ce moment par des tendances que moi je qualifierais avec d'autres, des tendances réactionnaires de la société qui sont pour le maintien d'un ordre social inégalitaire. Et donc là, on a un problème en réalité qui dépasse les seuls musulmans et ceux qui seraient qualifiés d'alliés des musulmans ou pire, qualifiés d'alliés des terroristes. Mais je tiens à rappeler une chose qui est importante derrière l'islamo-gauchisme. On a effectivement une logique de peur et de terreur aussi, de terreur psychologique. Il y a une guerre psychologique là qui est mise en place. C'est pas seulement de disqualification et de dénigrement. C'est créer un climat de peur qui relève de la logique du harcèlement moral, hein, qui vise à créer une peur, instaurer une peur chez des gens pour qu'ils ne puissent plus s'exprimer. Cette peur est principalement vécue par les musulmans et les musulmanes de France aujourd'hui. On a les premiers qui sont visés par des logiques de terrorisation sont notamment les musulmans, évidemment, derrière cette accusation d'islamo-gauchisme. Et là, on a un vrai problème d'une partie de la population qui vit des discriminations, qui est en souffrance, qui subit aussi des descentes policières illégales et illégitimes. Alors, je dis illégitimes, elles seraient légitimes si effectivement il y a des terroristes d'extrême droite. Mais là, on a des gens qui subissent des descentes policières seulement parce qu'ils sont musulmans. Alors, là, on a une vraie logique de chasse aux sorcières sur les questions religieuses. Donc, je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça.
Ouais, tout à
mais
fait.
On a une augmentation de l'islamophobie, du racisme anti-musulman dans la société française là, depuis un certain nombre d'années, y compris, je le rappelle, qui n'est pas juste du préjugé. On a toute une partie de l'extrême droite proche de générations identitaires, des mouvances néo-nazies, des nationalistes identitaires proches du Front National aussi, qui a commis des attentats terroristes contre des musulmans en France, et y compris contre des gens qui étaient perçus comme étant islamo-gauchistes. On est sur un niveau de violence dans l'analyse de la situation française, là, qui est beaucoup plus inquiétante, qui concernait d'autres pays, là, l'Australie avec l'attentat de Christchurch là, en 2019, qui avait, je sais plus si c'est la Finlande ou la Suède, avec Breivik, là, du coup, qui avait commis donc un nationaliste d'extrême droite islamophobe, identitaire, là, qui avait commis des attentats contre des jeunes du Parti Socialiste et des enceintes gouvernementales. Mais je rappelle qu'on a eu aussi des attentats qui ont été déjoués en France contre des mouvances d'extrême droite qui visaient particulièrement les musulmans et qui visaient toute personne qui était perçue comme étant collabo, pour reprendre leur terme, des musulmans et des terroristes musulmans. Je rappelle que le président de la République, Emmanuel Macron, a été visé par un projet d'attentat terroriste déjoué par les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme en France. Jean-Luc Mélenchon et d'autres parlementaires ont été visés par des projets d'attentat. On a eu des attentats déjoués à la dernière minute. Je rappelle que l'an dernier, après les attentats contre Samuel Paty, d'individus, soit qu'on estime proches des mouvances d'extrême droite musulmane, soit en tout cas bref, cet individu-là a commis un attentat contre effectivement un enseignant. Puis il y a eu Nice aussi, l'attentat de Nice. On a eu aussi des attentats. Des projets d'attentats, des appels aux attentats, des appels à la violence de toute une partie de la fraction fasciste, néo-nazie et d'extrême droite, avec un militant de génération identitaire qui, au couteau, dans la rue, a essayé de s'en prendre du coup à des musulmans. Là, évidemment, la ville va m'échapper. C'est pas Grenoble. Mince, je sais plus la ville.
Je peux pas t'aider.
La ville qui est concernée. En tout cas, là où aussi on a eu une logique de l'État qui a dû intervenir pour neutraliser, surveiller une partie de l'extrême droite terroriste, ou qui a essayé d'élaborer des projets terroristes, c'est pendant la décennie qui est passée. On a une période de cristallisation, de tension, de radicalisation de l'extrême droite islamophobe, de l'extrême droite néo-nazie. Cette extrême droite n'est pas seulement islamophobe, elle est homophobe, transphobe, elle est antisémite, il faut le rappeler. Non, l'antisémitisme de l'extrême droite n'a pas disparu, il est très actif, par contre il a appris à se masquer. Et donc là on a une espèce d'alliance dans le langage entre le gouvernement qui utilise un mot utilisé par l'extrême droite, islamo-gauchiste, avec une extrême droite qui est extrêmement à l'offensive sur le plan idéologique, sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire, sur le plan des violences. Là, on a une situation de crise qui est extrêmement inquiétante. Ce qui est inquiétant, enfin, tu m'excuses Elsa si je suis un peu trop long, c'est Alors, l'absence de réaction, maintenant, il commence à y avoir des réactions du champ académique qui se mobilisent. Mais il y a une trop grande timidité des forces syndicales, des forces de gauche, des collectifs, des intellectuels, des mouvements de gauche et d'extrême gauche aussi, de toutes tendances confondues, pour s'emparer de ces questions d'accusation de terrorisme de tous les musulmans, de lutte contre l'islamophobie, de cette thématique de l'islamo-gauchisme. Il y a un intérêt réel de tous les mouvements d'émancipation, des mouvements égalitaires, là je parle sur le plan politique, de s'unir pour faire attention à cette logique de macartisme, de police de la pensée, mais aussi d'une logique de violence qui est derrière, d'autorisation d'un climat idéologique, d'autorisation des passages à l'acte violent. Je rappelle encore une fois que les violences subies par les militants LGBT de la part de l'extrême droite sont réelles depuis des années dans la rue. Il y a de la véritable répression. Les féministes se font attaquer aussi dans les rues. On a un vrai basculement du débat de disqualification habituelle dans les mots qui se traduit par des passages à l'acte violents dans les faits. On a un sursaut citoyen à avoir, quelles que soient les tendances humanistes, simplement des droits de l'homme, ou anarchistes, communistes, ou quelles que soient les tendances des militants de l'antiracisme politique, des militants de l'antiracisme moral, de toutes les tendances qui ont en tout cas une partie d'idéaux, mais aussi de projets égalitaires, de respect des libertés, de démocratie, même si c'est un agenda politique commun minimaliste. En tout cas, on a un certain nombre de valeurs et d'éléments que l'on doit mobiliser sur un front d'une dangereuse alliance avec l'extrême droite et une partie de la droite ou de l'extrême centre néolibéral et autoritaire, là, qui a une tendance autoritaire grandissante. Donc ça, c'est une chose. Et sur le point de vue de la recherche, il faut que l'on sache garder raison, que l'on distingue la logique politique qui vise à gagner des luttes politiques parfois par tous les moyens nécessaires, de la logique de la recherche académique et scientifique, la recherche n'est pas neutre d'un point de vue des stéréotypes, des idéologies possibles, mais la recherche, le sang de la recherche n'a pas les mêmes logiques de pensée et d'action. Le monde de la recherche essaye de se baser sur des faits et non pas sur des polémiques, pas sur des discussions de comptoir, pas sur des intellectuels militants dans les médias qui disent tout et n'importe quoi, mais sur des recherches historiques, sur des outils de la recherche pour essayer d'objectiver effectivement des faits et produire du savoir sur lequel les politiques peuvent compter. Donc c'est la recherche qui doit être soutenue financièrement de manière autonome des pouvoirs publics, mais soutenue financièrement par les pouvoirs publics pour pouvoir réaliser une recherche la plus objective possible, qui rallie effectivement une diversité d'acteurs. Je rappelle que dans le monde de la recherche, pour le dire comme ça, ça se dit pas souvent, mais il faut le dire, pour produire du savoir académique, les sociologues qui sont des citoyens, ou les chercheurs en général qui sont des citoyens à titre personnel de gauche ou de droite, s'allient ensemble pour produire du savoir académique, essayer d'établir la vérité d'un certain nombre de faits. Il y a une alliance interpolitique entre des chercheurs pour produire du savoir académique. Et ça, c'est quelque chose que les mouvements militants ne comprennent pas toujours. Un chercheur, quand il veut se rapprocher du réel, va s'appuyer sur des travaux, y compris de chercheurs qui sont d'un bord politique parfois opposé. Quand on produit du savoir, quand on essaye de savoir si la pluie mouille, on ne cherche pas à savoir si un chercheur est de droite ou de gauche. On veut savoir si la pluie, elle mouille. S'il y a une solution chimique qui est explosive, qui risque de faire exploser quelque chose ou une substance toxique, on s'allie de tous les citoyens capables de produire des faits pour identifier la dangerosité toxique d'un produit. On n'est pas sur les mêmes logiques dans le monde politique que dans le monde scientifique. Je ne sais pas si je suis clair sur ce point, mais il est fondamental actuellement, d'où la menace et de la tentative du gouvernement actuel de vouloir contrôler politiquement la recherche scientifique. Ça, c'est un acquis en démocratie. Il faut qu'on sépare les deux, et là, il y a un vrai danger à la fois pour la science, mais donc aussi pour la démocratie, de cette volonté de contrôle politique des productions académiques.
Merci Jessie Cormon de nous avoir apporté ton analyse sur cette notion d'islamo-gauchisme et de toutes ces conséquences. Je rappelle donc que tu es sociologue et que tu travailles sur le terrain sur plein de thématiques. On peut retrouver, j'imagine, tes travaux en librairie ou sur le net.
Alors merci à Micro Rebelle de m'avoir permis de contribuer à ce débat à la fois d'enjeux scientifiques et de démocratie, et puis aussi un un petit bonjour aux camarades frères et sœurs du bassin minier, là, salutaires tous, salutaires toutes, et particulièrement du coup à toutes les personnes qui subissent des inégalités, des discriminations quelles qu'elles soient, et des formes de répression de leur opinion, de leur conviction politique, leur conviction religieuse, spirituelle, etc., et des formes du coup de discrimination. Courage à toutes et à tous dans cette période très compliquée et qui ne sont pas sans conséquences, y compris malheureusement sur le plan de la santé et des maladies, du craquage psychologique d'un certain nombre de citoyens qui sont effrayés par la situation depuis plusieurs années, de la dégradation du climat démocratique en France.